Bonjour Vivien.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça s'écrit comment Vivien?
V-I-V-I-E-N.
Merci. Oui, non, parce qu'il y a plein de fans qui nous demandent, qui voudraient t'envoyer des lettres et qui voudraient pas mettre un A à la place du E quand même. C'est pas joli. Enfin, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, Vivien,
chose, hein.
Vivien, qui était très fatigué et qui n'a pas écouté les conseils de sieste de Sylvie Franco, nous a fait un top 10.
Voilà, petite vidéo de fin d'année pour avoir quelques idées pour mettre des cadeaux sous le sapin. Mmh. Je me dis que c'est pas du tout bête de faire une petite rétrospective de l'année.
Non, c'est bien parce que comme ça, on a des idées pour acheter des cadeaux.
Voilà, sur ce que j'ai aimé, dont j'ai parlé à la radio pour certaines et d'autres que j'ai écrites pour Bande Dessinée Info.
Ah, c'est quoi ça?
C'est le site pour lequel je travaille.
Bah, bonjour Bande Dessinée Info.
Voilà.
C'est grâce à eux que t'as des BD?
C'est grâce à eux, c'est grâce à mon travail quotidien.
Oui, c'est vrai que voilà. Mon travail, je le néglige un peu, mais il faut bien bosser un peu pour avoir tout ça.
C'est ça.
Alors, numéro 10.
Numéro 10, j'en avais parlé ici, c'est 10 petits chefs, une bande dessinée policière qui parodie joyeusement l'œuvre d'Agatha Christie, où on va se retrouver dans un huis clos, où il y a, lors d'une émission télé, des chefs qui vont être tués au fur et à mesure de l'album.
Un peu comme les 10 petits nègres.
C'est ça, absolument. Un très bon album. Très sympathique, une belle découverte avec un dessin un peu franco-belge, très sympathique au demeurant. Voilà, une très belle découverte. C'était en début d'année, ça.
Oui, voilà. Un petit moment. C'est de qui?
Je l'ai oublié. Voilà, c'est Serge Carrère. Voilà, c'est Serge Carrère.
Bon, comme quoi, tu vois. Hein. 10 petits chefs pour le 10. Pour la 9.
Pour le 9, je voulais parler du Réseau Papillon. C'est un album jeunesse que j'avais beaucoup aimé, qui parle des enfants dans la résistance en France.
Dans la guerre.
Voilà, c'est ça. Donc, on en est au troisième tome. Le troisième tome parlait de l'arrivée de soldats sénégalais qui avaient été fait prisonniers par les nazis.
Les tirailleurs.
Les tirailleurs. Et du coup, qui étaient dans le réseau de résistance de ces enfants-là, et qui est caché, protégé. Et bien sûr, ça va être lourd de conséquences pour ces enfants-là. Ça montre à la fois la réalité de la guerre et aussi le fait qu'il y ait des enfants qui ont été acteurs de cette résistance-là. Mmh. Et surtout, qui en ont payé un lourd tribut.
On l'oublie d'ailleurs, mais souvent les résistants, ils avaient 18, 19 ans, 16 ans. Et puis,
voilà, c'est ça. Là, c'est plus,
c'est plus petit.
C'est plutôt des jeunes enfants. Mmh. Ils ont entre 10-13 ans, on va dire.
Dans l'ado, là, ouais, 10-12 ans. Le Réseau Papillon, très joli BD. Le dessin a l'air super.
Oui, et le tome 4 arrivera en avril 2020. J'ai eu la confirmation du scénariste.
Bien. Alors, on passe exactement au numéro 8.
C'est bien ça. Alors, c'est un manga, pour changer un petit peu, puisque du coup, j'ai essayé de parler un peu de tous les courants du 9e art. Donc, ça s'appelle Balzar. C'est un manga qui est édité chez Meian Edition et qui va parler d'un prodige de la guerre. Les guerres napoléoniennes, pardon, pour situer un petit peu, on est au 19e siècle, grosso modo.
Ouais, c'est une vieille guerre, il a une baïonnette sur ça.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un prodige de la guerre qui va être envoyé dans un pays annexé. Ça ressemble à la Prusse, hein, c'est pas du tout les vrais pays. Et qui va devoir intégrer une académie militaire pour pouvoir former ce pays annexé. Et il va tomber sur des cadets récalcitrants. Il va devoir faire part de son expérience et surtout de son savoir-faire en termes de guerre moderne pour l'époque. C'est très bien fichu, on est au troisième tome. Et puis ça parle bien des tactiques guerrières, de ce qu'on pouvait faire auparavant et tout ça. Le dessin est très léché, c'est super bien fichu. Et c'est une belle série en tout début de tome, on en est à trois tomes pour l'instant.
D'accord, Balzar.
C'est ça.
Alors c'est écrit en japonais sur la...
Non, oui, parce que j'ai pas trouvé la couverture en français, donc du coup je vous ai mis la couverture
ne
en japonais.
Ne prends pas cet air agacé, s'il te plaît.
Voilà, désolé. Voilà.
Numéro 7.
Mimosa, une série jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Les tribulations d'une petite fillette qui doit avoir, on va dire, entre 5 et 8 ans, c'est des strips, hein, juste des histoires courtes sur quelques cases, qui va raconter sa petite vie d'enfant, avec ses bêtises d'enfant, avec ses découvertes d'enfant, avec sa relation avec sa mère, ses proches, tout ça. C'est un tome unique, c'est en format italienne, c'est très bien édité, c'est beau comme tout.
On dirait des trucs qu'on retrouve dans les bouquins, dans les magazines.
C'est ça. C'est des strips. Hein. Et en fait, on va reconnaître dans cette BD-là un peu sa fille, sa nièce, la fille d'une amie ou d'un ami. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, puisqu'on retrouve un peu toutes les bêtises et l'environnement des enfants.
Puis c'est dans le top 10, donc forcément, tu as beaucoup aimé, sinon ça serait pas là. Si on passait au numéro 6.
Au numéro 6, c'est ça, voilà, tu suis bien, c'est bien, bien joué. C'est Agatha chez Glénat, la nouvelle série d'Olivier Berlion, auteur, on va dire, bien de chez nous, puisqu'il habite à Rochefort-du-Gard, qui nous sort sa nouvelle série chez Glénat. Donc c'est un polar ambiance... Prohibition, où on va voir un peu toutes les strates de la mafia de l'époque, sous couvert d'une jeune fille qui va découvrir Hollywood et ben, ses travers. C'est magnifique, l'arrivée à New York est vraiment merveilleuse, quand on le voit, on la voit arriver en bateau, on s'y croirait. C'est très beau, c'est vraiment, vraiment bien fichu en termes de scénario. Et le deuxième tome arrive aussi en avril 2020.
Ça sent le mafieux hein, quand même. Avec
ah oui, là il y en a plein.
Les Borsalino, voilà, la nana devant, avec une jolie petite poitrine. Enfin bon, bref. Je sais plus où on en est. 5.
C'est ça.
5.
Le tome 5, aussi une vie pour le football. Une BD que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, parce que ça concilie un peu mes deux passions, le football et la bande dessinée. Puisqu'en fait, on va découvrir la vie de aussi Rohr, qui est le neveu, l'oncle, pardon, de Gernot Rohr, qui a entraîné Marseille, pour les gens qui se connaissent un petit peu en foot. Et en fait, qui a une vie palpitante, puisqu'en fait, il était passionné par ce sport depuis le tout début, depuis les années, début des années 30. Et il va faire de cette passion son métier. C'était pas évident dans les tout premiers temps du football de vivre de ce sport-là. Et il va être un des premiers grands professionnels célèbres. Et il va devoir fuir l'Allemagne nazie, puisqu'il n'est pas du tout d'accord avec ce régime-là. Et il va exploser dans le championnat français. Il va devoir fuir, bien sûr, toujours les nazis. C'est très beau graphiquement. C'est un dessin qui est fait au crayon de couleur. C'est très hachuré. Ça
on dirait un peu les gouaches, la cire un peu.
Ouais, on dirait un peu du pastel, voilà. Et en fait, ça montre très bien le mouvement en termes de lorsqu'il y a les matchs de foot et tout ça. On voit vraiment les gens tirer au but et tout ça. Il y a deux histoires, l'histoire du foot avec un grand H et l'histoire aussi avec un grand H, puisqu'on va parler aussi du régime nazi qui va chercher à fuir.
Bien, puis on sent un champ de légumes derrière là sur la couverture, parce que c'est un champ de blé peut-être.
C'est ça.
Aussi, O2SI pour la sélection numéro 5, mais nous arrivons tout de suite au numéro 4. Attention, le top 3 se rapproche.
C'est ça. Numéro 4, Les jours qui restent, un tome unique merveilleux qui va parler de la maladie et du rapport qu'on peut avoir avec la maladie. Trois portraits, trois personnes qui vont être touchées par une maladie dont j'ai oublié le nom parce qu'elle est vraiment très très longue et compliquée. C'est une maladie du sang. Voilà. Et en fait, c'est trois personnes qui vont l'aborder différemment. Une jeune fille qui est dans la fleur de l'âge, elle doit avoir la vingtaine, qui va vivre ça comme un cataclysme dans sa vie. Un homme qui a une cinquantaine d'années, qui vit avec depuis très très longtemps et qui mène une vie sensiblement tout à fait banale. Hein, enfin voilà. Et en fait, on va suivre leur parcours, que ce soit leurs relations humaines, leurs relations amoureuses, leurs relations vis-à-vis de la maladie. Le regard des autres, ce que cette maladie change pour eux, et avec un happy end absolument merveilleux, puisqu'on s'attache énormément au personnage, et on est bouleversé du début à la fin avec cette bande dessinée. J'ai trouvé ça que c'était un tome vraiment fabuleux. Oui.
D'accord, Magali Foutrier.
C'est ça.
Bien. On la trouve un partout chez Amazon, tout ça. J'ai essayé de trouver le nom de la maladie, mais bon, ils le disent
voilà,
pas. Ils disent que c'est le même mal, mais ils disent pas la même maladie qui se côtoie dans la salle d'attente du docteur Lebon.
C'est bien ça, voilà.
Je vais faire ta chronique, moi, tu vas voir. Attention, mesdames et messieurs, le numéro 3.
Alors, le numéro 3, c'est, voilà, là, on rentre dans mes trois gros coups de cœur de l'année. Un putain de salopard de chez Rue de Sèvres, édité par un petit nouveau, réalisé par un petit nouveau, il s'appelle Loisel.
Oui, ce que j'allais dire, Loisel,
quand
même.
Je le connais pas très bien. Et dessiné par le merveilleux, le fabuleux... tu le connais pas, oui, il a fait une série qui s'appelait Là où le regard ne porte pas, chez Dargaud, il y a 12 ans, qui a cartonné. C'était un succès.